Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Après plusieurs semaines, on s'est rendu compte, avec le leadership, on a fait un bilan 2014, et de plus en plus, des gens de l'église, des chrétiens qui aiment Jésus, nous disaient, tu sais, je suis débordé en ce moment. Je suis dépassé par les événements. Je suis fatigué, je suis stressé, je suis anxieux. Tout va mal, je prie, mais rien ne se passe. J'écoutais les chrétiens, je me dis, mais attends, on est avec des chrétiens ou des non-chrétiens là? Les gens me disent, je suis pasteur, je suis débordé, je ne peux pas venir prier, je ne peux pas venir à l'église, je suis débordé. Je me dis, mais il y a un problème, ce n'est pas la vie que Christ a pour nous. Alors ils me disent, quand j'aurai le temps, je prierai. Ou quand j'aurai le temps, j'irai à l'église. Ou quand j'aurai les finances, je donnerai à Dieu. Et c'est tout, c'est quand je pourrai. Et tout est débordé, je suis déprimé, je suis dépassé. Ne levez pas la main, certains, mais combien parfois vous vous sentez dépassé par la vie? 2014 est passé, elle vous a passé dessus. On a commencé janvier, décembre arrivé, on s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour Dieu? On a fait pour Dieu des choses, mais nombreux sont ceux et celles qui me disent, c'est passé trop vite, je perds le contrôle. Et on n'a plus le contrôle de nos vies. Et ce n'est pas une caractéristique d'un Dieu qui nous aime. Nous sommes censés avoir le contrôle de nos vies par la sagesse et la puissance du Saint-Esprit. Et donc avec ce constat, parfois amer, nous avons décidé de commencer deux séries en même temps. Une qui va s'appeler « Le lieu secret » ou « Découvrir » ou « Redécouvrir » la réalité d'une intimité profonde avec Dieu. Et pendant plusieurs semaines, on va vous bombarder de principes, d'encouragements et d'études qui vont vous aider à comprendre c'est quoi une vie intime avec Dieu, comment elle se manifeste, comment est-ce qu'on sent si on est proche de Dieu ou pas, quels sont les fruits d'une vie avec Dieu, une vie d'intimité, tout commence dans le lieu secret. Et en parallèle, on va commencer une série qui s'appelle « Simplifie ta vie ». Et simplifier sa vie n'est pas aussi simple, sinon tout le monde aurait des vies simples. Simplifier sa vie signifie avoir le courage et les tripes d'enlever ce qui n'est pas de Dieu et de garder uniquement l'essentiel, de faire uniquement ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas donné à tout le monde de prendre le courage à deux mains et d'enlever de ta vie ce qui n'est pas productif. Éphésiens 2:8 nous dit que Dieu nous a créés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et donc il y a une liste d'œuvres que Dieu a préparé d'avance pour vous et moi, et une liste de choses que nous faisons qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et je tiens à vous dire ce matin que tout ce que je fais qui a été préparé par Dieu est déjà béni. Et tout ce que je fais qui n'a pas été préparé par Dieu, j'aurai beau prier, ce ne sera pas béni. Ok. Simplifie ta vie. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, simplifie ta vie. Et vous allez voir que c'est un grand défi. Il m'a fallu plusieurs semaines pour arriver au stade de pouvoir enseigner ce message qui commencera vendredi soir. Simplifie sa vie. Mais je ne pouvais pas commencer ce message sans introduire la série numéro 1 de l'année 2015 qui s'intitule « Le lieu secret ». Et je ne vais pas répéter le cours EBD, pas du tout. Je vais vous encourager à avoir une vision fraîche d'une relation avec Jésus. Et vous allez remarquer que quand tu passes du temps avec Dieu, le temps que tu passes avec Dieu n'est jamais perdu. Jamais. Quelqu'un m'a dit plusieurs fois, en tout cas plusieurs fois ce mois-ci, j'ai entendu des gens qui me disaient « Je suis trop occupé pour prier. » Et Charles Spurgeon a dit un jour « Je suis trop occupé pour ne pas prier. » Et il disait que lorsque son planning de la journée était chargé, lorsqu'il se levait le matin, il voyait une longue journée devant lui, il augmentait son temps de prière. Certains, 10 minutes en prière pour faire les choses. Non, augmente ton temps de prière. Plus tu as des choses à faire, plus tu as besoin de la grâce de Dieu. En Matthieu 11, verset 28, version Le Message, écoutez comment c'est magnifique. Ce sera le verset clé des deux séries. Le verset de base que vous devriez apprendre par cœur. Êtes-vous fatigué? J'aime bien les gens, le 2 janvier, sont fatigués. Je dis, comment tu vas faire le 34 janvier donc? Le 2 janvier, t'es déjà fatigué. J'ai vu une émission hier à la télévision où les gars demandaient « Pourquoi venez-vous à la salle de sport le 2 janvier ?» La plupart des gens disaient « Par culpabilité. » Pour enlever le poids du foie gras. Mais franchement, moi j'ai vécu Noël 31, j'ai pas arrêté le sport, j'ai mangé un peu, mais j'ai continué mon sport. C'est un style de vie. Je ne voulais pas être fatigué. Le 2 janvier, tu ne peux pas être fatigué. Tu ne peux être qu'en forme. Qui est en forme ce matin? Normal, on est le 4 janvier. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous épuisé? Êtes-vous blessé par la religion? La religion, c'est un système de valeurs à laquelle, auquel on adhère, mais en fin de compte, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de puissance. C'est juste, on vient à l'église, on fait des choses, mais il n'y a pas de puissance. Est-ce que tu es fatigué, blessé par la religion? Christ dit, venez à moi, reposez-vous en moi, et vous serez restauré. Je vais vous montrer comment prendre du vrai repos. Marchez avec moi, et travailler avec moi. Écoutez ça, Christ dit, tu auras du repos si tu marches et travailles avec moi. Il est possible de travailler et de marcher avec Christ tout en maintenant une vie de repos. Quand quelqu'un est fatigué et épuisé, c'est qu'il a quitté la présence de Dieu et qu'il s'est mis à faire les choses par la chair, par l'humain. Et Christ dit ici, viens avec moi, marche avec moi, travaille avec moi. Regardez comment je m'y prends. Apprenez, j'aime cette phrase, apprenez les rythmes spontanés de la grâce. Je ne mettrai rien de lourd ou de mal ajusté sur vous. Tenez-moi compagnie et vous apprendrez à vivre une vie légère et libre. Jésus veut que nous vivions une vie légère et libre. Une vie dans laquelle tu exprimes sa vie. Les gens ont envie de dire, je veux vivre ta vie est trop canon, ta vie est magnifique, je veux vivre la vie que tu as. Et tu leur diras, viens, suis Jésus. Ah, mais si on se lève le 2 janvier, fatigué, épuisé, démoralisé, détruit, parce que le frère ne nous a pas dit bonjour il y a 45 ans en arrière, ça ne marchera pas. Il faut que tu viennes apprendre les rythmes spontanés de la grâce. Jésus dit ici, je ne mettrai rien de lourd ou de mal ajusté sur toi, rien de lourd. Si en tant que chrétien je marche avec un fardeau continuel, c'est que je n'ai pas le fardeau de Christ. Puisque le fardeau de Christ est léger. Si les directives sont trop compliquées et trop difficiles à suivre, ce ne sont pas les directives de Christ. Parce que Christ dit, suis-moi, apprends avec moi, marche avec moi, fais ce que je fais et tout ira bien. Et donc je déclare ce matin, le 4 janvier 2015, qu'en 2015, notre vie va radicalement changer. Parce que nous voulons avoir une vie légère et libre. Être libre en Christ. Et vous savez, ces derniers jours, j'ai vécu un moment assez difficile, mais bon. Parce que le plus grand fardeau de ma vie, le plus grand problème de ma vie, ce n'est pas Satan. Satan est un perdant. Satan n'a même pas les clés de sa propre maison. Christ est arrivé en enfer, a pris les clés et parti avec. Il n'a plus rien, il n'a même plus de dents. Quand je frappe Satan, ses gencives tombent. Mais nous, on vit une vie comme si Satan avait encore les clés. C'est Christ qui a les clés. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée. J'ai toute autorité. Si Christ a toute autorité, Satan n'a plus aucune autorité. Sauf celle que tu lui donnes. Mais si Christ a toute autorité, alors il y a une victoire dans la vie du chrétien. Mais la chose qui m'a mis le fardeau le plus lourd en 2014, c'est de voir le nombre de chrétiens qui ne prient pas. Le nombre de chrétiens qui peuvent passer 1, 2, 3, 4, 5 jours sans prier, sans passer du temps avec Dieu. Et je sais pourquoi, parce que dans une nature humaine, la prière n'est pas naturelle. Vous savez quoi? Depuis qu'on est tout jeune, depuis qu'on est tout bébé, l'éducation, surtout à la française, nous pousse à éduquer nos enfants pour qu'ils deviennent indépendants. Le but de l'école française, le but de l'éducation à la française, c'est que nous devenions indépendants. Et nous pensons à tort qu'être indépendant, c'est être mature. Non, non, être indépendant, c'est l'immaturité la plus totale. Quand tu es indépendant, c'est que tu es un immature. La maturité exige l'interdépendance. La maturité exige que je dépende de Dieu, je m'appuie sur lui et j'apprends à dépendre des autres. Soumettez-vous les uns aux autres, encouragez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, servez-vous les indépendance, non, 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 interdépendance. Et c'est pour cela que la prière est anti-humain. Parce que la prière signifie « je dépends de Dieu ». Celui qui prie prouve qu'il dépend de Dieu, celui qui ne prie pas prouve qu'il ne dépend pas de Dieu. Plus je prie, plus je dépends de Dieu. Moins je prie, plus je dépends de moi. Et donc la prière est presque une attaque contre ma liberté humaine. La prière est une attaque contre mon indépendance. Je veux faire les choses à ma façon, c'est mon plan, c'est ma façon, c'est mon projet, c'est ma maison, c'est ma voiture. Mais quand on commence à prier, il y a une attaque contre notre indépendance. Et Dieu nous dit, est-ce que tu dépends de moi ? La prière qui pousse un homme ou une femme sur ses genoux déclare, Seigneur, j'ai besoin de toi, je te supplie, prends le contrôle de ma vie. Une église qui prie est en train de dire à Dieu, Seigneur, nous ne nous reposons pas sur les talents de l'estrade, ni sur les pasteurs, ni sur les finances, nous nous reposons sur ta grâce, sur ta puissance, sur ton amour et ta paix. Alors oui, le problème c'est que la prière est une attaque contre notre autonomie, notre liberté, notre propre façon de faire les choses. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, je t'en supplie, prends le contrôle de ma vie. Et rien n'est plus dangereux que d'avoir une vie qui n'est pas simple, une vie compliquée, une vie trop speed. Quand tu es trop speed, tu ne peux pas prendre le temps de prier. Et je veux commencer cette année avec vous en vous encourageant de devenir des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes du lieu secret. On reverra des versets, mais Dieu dit, Jésus a dit, dans Matthieu 6, il dit, quand tu pries dans le lieu secret, mon Père qui te voit dans le secret te le rendra en public. La vie d'un homme dans le secret est révélée par Dieu en public. Mais il y a un moment où chaque être humain, vous et moi, on ne peut plus être indépendant. Il y a un moment, tôt ou tard, et vous avez sûrement dû vivre ça, où tu n'as plus le contrôle de rien, tu es démoralisé, déprimé, tu es secoué par tout ce qui se passe, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi dire, tu perds tout. Et là, ton seul réflexe humain, c'est de tomber à genoux et de prier. Si le ciel existe, qu'il vienne m'aider. Si Dieu existe, qu'il m'aide. Là, tu te mets à prier. C'est normal, c'est un réflexe que Dieu a placé en nous depuis l'éternité. Parce qu'il sait comment nous inviter, parce que Dieu aime venir voir celui qui prie. Ce matin, j'ai deux points avec vous à partager rapidement. Deux points importants. Qui commence cette série qui s'appelle « Le lieu secret » ou « Comment découvrir ou redécouvrir la réalité d'une intimité avec Dieu ». La première chose que j'aimerais te dire ce matin, que j'ai vécu plusieurs fois et encore une fois ce week-end, dès l'instant où je me mets à prier, sa paix m'inonde. Je ne parle pas de cette fausse paix, je parle d'une paix intérieure qui me calme, qui me dit « Mon fils, tout ira bien, je suis là ». Rien n'a changé, mais sa présence est là. J'ai les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes craintes, mais sa présence est là. J'ai la même montagne devant moi, mais sa présence est là. J'ai les mêmes inquiétudes pour mes enfants, mais sa présence est là. Et sa présence commence à envahir mon âme, et tout ce qui était les paroles de l'ennemi sont détruites au profit des paroles de Dieu. Un homme qui trouve le lieu secret trouve le Dieu de la paix. Montrez-moi un homme qui prie, une femme qui prie, et je vous montrerai un homme en paix. Philippiens 4, 6 et 7 nous dit, écoutez comment c'est puissant, il nous dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu. Alors, tout le monde dit alors. Une fois que tu as prié, hein, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, elle n'est pas intellectuelle, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Gardera votre cœur et vos pensées. Cette année, Elodie a donc accouché, comme vous le savez, de mon petit garçon Théo. C'est mon petit garçon. Je lui prête. Notre fils Théo est né dans des conditions très délicates. Sans entrer dans les détails, il y a un moment où on m'a fait comprendre que la vie d'Elodie et de Théo était en grave danger et ça s'est joué à quelques minutes près. Et quand cela est arrivé, j'ai eu le choix, basculer dans le stress, l'anxiété et les « Pourquoi Seigneur ? Je te sers et pourquoi comme ça ?» ou uniquement dire « Saint-Esprit, Dieu de paix, remplis mon âme. » J'ai choisi l'option numéro 2. Et Dieu a tout préservé, Dieu a tout conduit, Dieu a tout dirigé. Et sa paix m'a conduit au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Entre parenthèses, mes amis, si l'ombre, si la mort a une ombre, c'est qu'il y a un soleil quelque part. Psaume 145 nous dit, verset 17, « Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions. Il montre son amour dans tout ce qu'il fait. » Écoutez ça. « Il est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui le font sincèrement. À ceux qui le respectent, il donne ce qu'il désire. Il écoute leurs cris et les sauve. » Je vais vous choquer ce matin. Aujourd'hui, c'est très rare que je prie pour demander à Dieu quelque chose pour moi. J'en ai plus besoin. Dieu sait ce dont j'ai besoin et Dieu sait ce que j'aime. Et vous savez quoi? Il me les donne. Je prie en général pour l'Église, pour vous. Je prie rarement pour moi. Plus besoin. La Bible dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Matthieu 6 nous dit que si tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout vous sera donné par-dessus tout. Je reste ébahi devant la faveur de Dieu quand Dieu trouve un homme ou une femme qui se tient à la brèche et qui prie pour les autres. Dieu dit, si tu pries pour mon peuple, je m'occuperai de toi. Matthieu 7 nous dit, verset 7 et 8, « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. » Tu veux la paix ce matin? Va dans sa présence, demande-lui la paix, prie, intercède, et le Dieu de paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplira ton âme, gardera ton cœur, remplira tes pensées. Le psaume 40 nous dit, j'ai mis tout mon espoir, écoutez bien ça Église, des fois on lit les passages, mais on ne lit pas le passage, j'ai mis tout mon espoir. Certains d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On met une partie de l'espoir en Dieu, une partie dans la banque, une partie dans le système, une partie avec le patron. Au cas où, si Dieu n'agit pas, j'ai un plan B. Il n'y a pas de plan B pour celui qui marche avec Dieu. Parce que le plan de Dieu suffit. Oh, d'ailleurs, j'ai souvent vu que le plan B que moi j'ai, c'est le plan A de Dieu. Ça veut dire que Dieu prend le contrôle de ma vie. Ce que je croyais pouvoir maîtriser, ce n'est pas tout ce qu'il fallait faire. Dieu sait ce qu'il a à faire. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur et il s'est penché vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a fait remonter du puits sans fond, de la boue des profondeurs. Il a dressé mes pieds sur le rocher. Il a rendu mes pas plus sûrs. Comment peux-tu rester démoralisé plus de quelques minutes, voire aller maximum heures? Quand tu prends ce genre de passage et tu dis « Dieu se penche vers celui qui crie au secours ». Dans le lieu secret, tu peux chercher la paix de Dieu et tu la trouveras, mon ami. Tu ne trouveras pas la paix de Dieu avec un pasteur, un pape, un évêque, un curé. Non, tu trouveras la paix de Dieu dans la présence de Dieu. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, imaginer ou penser, gardera vos cœurs, préservera votre façon de penser, vous resterez sain, S-I-N, d'esprit, d'âme et de corps. La prière, c'est l'oxygène du chrétien. Matthieu 21, 22 nous dit, Christ qui parle, « Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans » la quoi ? Dans la prière. Dieu aime saturer celui qui le cherche. La paix de Dieu envahit celui qui se tient devant lui. Le psaume 46, 11 nous dit « Arrête !» Dieu crie « Arrête !» et reconnaît que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrête, c'est moi ton Dieu. Et je suis le Dieu de paix, shalom. Et en priant ce matin, je me suis rendu compte du nombre de fois où en 2014... Bien que j'ai été extrêmement béni, Dieu n'a pas toujours exaucé mes prières à l'instant T. Qui a déjà vécu ça? Bienvenue au club. Nous aimons prier et nous voulons que Dieu nous donne exauce nos prières le lendemain. Et s'il ne s'est pas fait, on doute de l'amour de Dieu. On doute de Dieu. Dieu n'est même pas... Tu rigoles ou quoi? La plus belle récompense, écoutez ce qu'il suit, et peut-être que vous pourrez le noter. La plus belle récompense qu'offre la prière n'est pas l'exaucement des requêtes. La plus belle récompense de la prière, c'est de connaître Dieu. Je veux dire qu'il y a des fois, la prière ne sera pas exaucée parce que Dieu veut que tu apprennes à plus le connaître. Il y a plus important qu'une requête exaucée, il y a connaître le cœur de Dieu. La prière, ce n'est pas juste « je prie pour avoir quelque chose », la prière, c'est « je prie pour connaître quelqu'un ». Il y a plus important, mon ami, ce matin, que d'avoir une nouvelle voiture. C'est important, c'est bien. Plus important que d'avoir une guitare, une maison, un instrument, c'est bien tout ça, c'est super, mais plus important, c'est connaître le cœur de Dieu. Rien ne peut enlever la paix dans le cœur de celui qui connaît son Dieu. Celui qui prie connaît Dieu. J'ai voulu lire ce passage magnifique, très connu, le psaume 91. Écoute, dans ce contexte, là, on parle de la paix de Dieu. C'est la première chose qui se passe. Montrez-moi quelqu'un qui est en paix. Je vous montrerai quelqu'un qui connaît son Dieu dans le lieu secret. Montrez-moi quelqu'un qui n'est pas en paix, du tout, aucune paix. Je vous montrerai quelqu'un qui ne prie jamais. Ou s'il prie, c'est « Seigneur, aide-moi, bénis-moi, amen, amen. » Pas d'intimité. Et en 2015, je propose que l'extravagance, on soit connu et reconnu pour être des hommes et des femmes d'intimité. Que les gens viennent te voir en disant « Donne-moi ton Dieu !» Tu fais « Ok, t'énerve pas, apprends. » Le psaume 91 nous dit « Qui se place à l'abri auprès de Dieu, intimité, du Dieu très haut, et se met sous la protection du très grand, celui-là, dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera. Tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter. Tu n'auras rien à redouter. Tu n'auras rien à redouter. Celui qui se tient à l'abri du Très-Haut n'aura rien à redouter. L'homme et la femme qui marchent dans l'intimité n'aura rien à redouter. Ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste ou l'Ebola qui rôde dans l'obscurité. Il y a des gens ici, chrétiens, qui m'appellent en « Pasteur, j'ai la fièvre, j'ai l'Ebola. » Non, t'écoutes trop de télévision. Je sais pas, est-ce que hier soir, j'ai pris le temps de la présentation, je mets sur la chaîne 20, il n'y a eu que des mauvaises nouvelles. Chaîne 21, un peu plus sympa, il y a eu une nouvelle sympa où on a parlé d'un gars qui fait des gâteaux. C'était cool. La chaîne 16, tout le monde est mort. Mort en bateau, mort en avion, mort en guerre, mort sur la plage. Tout le monde était mort. Et les chrétiens passent plus de temps à écouter ce que le diable fait que de contempler ce que Dieu veut faire et a déjà commencé à faire. Et celui qui est à l'abri du Très-Haut, même s'il honore et s'il comprend que la douleur de ceux qui, celles qui partent, il se bat pour ceux qui vivent. Ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne te arrivera rien. Montre-moi en pleine guerre un homme qui est intime avec Dieu. Il marchera la tête haute, grand sourire, alors que tout le monde tombe à droite et à gauche. Il avance, n'a pas sûr. Parce que la présence de Dieu est dans sa vie. Ouvre seulement les yeux. Si tu veux définir la prière ce matin, prier c'est ouvrir ses yeux. Prier c'est activer le futur que Dieu a pour toi. Prier c'est se rebeller contre les plans de l'ennemi. Prier c'est se rebeller contre les plans de l'ennemi. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. On oublie quel Dieu on sert. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de chez toi. Quand un homme prie, le malheur reste loin de sa famille. Vous savez, Pasteur Weiss, vendredi soir, ou je ne sais plus si c'est quand, mercredi soir, a parlé de la couverture spirituelle sous laquelle nous sommes. Il ne parle pas d'un contrôle. Pasteur Weiss ne contrôle rien chez nous. Le monsieur est un homme de Dieu extraordinaire, 40 ans de ministère. Très sérieux, très solide, il sera parmi nous bientôt. Je vous parle d'un général dans l'armée de Dieu. Et ce monsieur-là nous disait qu'il prie tous les jours pour nous. Trois fois en 4 ans, j'ai vraiment voulu abandonner. Mais il y a des fois, je le dis comme ça, mais il y a des fois, j'ai vraiment envie d'abandonner. Pas Dieu, mais vous savez, vous savez que vous jamais, je le sais, mais moi ça m'arrive. Les trois fois où j'ai vraiment voulu abandonner, le pasteur Harold Weiss m'a envoyé un email. Trois fois, Charles. Je parle de gens, d'hommes de Dieu que c'est. Il disait, il prie pour nous tous les jours, et ça c'est une protection sur l'Église. Tous les jours, je prie pour vous, tous les jours. Tous les jours. Pourquoi ? Si tu fais du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteint. Aucun malheur n'approchera de chez toi. Vous êtes ma famille. C'est pour cela qu'il est important d'être un membre d'une église. Pas être un vagabond qui va dans l'église, hop, 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 un petit peu ici, je butine là. Écoute, arrête de butiner, parce que tu ne construis rien. Viens dans une église, enracine-toi. Deviens un membre actif, un bâtisseur de l'église locale. Mets-toi sous une vraie autorité spirituelle qui va prier pour toi. Il y aura des problèmes, il y aura des craintes, il y aura des échecs, il y aura des tests, mais il y aura la présence de Dieu tout au long. Il dit ici, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Il te portera sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Bien sûr que ça s'adresse à Christ, mais aussi à nous. Tu marcheras sans risque sur le lion. T'es marché un lion, toi. La vipère, je veux bien. Marcher sur le lion, il faut y aller, hein. Mais marche sur le lion et la vipère et tu pourras piétiner le fauve et le serpent. Il est attaché à moi. Écoutez bien, Dieu dit, il est attaché à moi. Je le mettrai donc à l'abri. Attaché à Dieu, tu es à l'abri. Attaché à Dieu, tu es à l'abri. Attaché à Dieu, tu es à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. Écoutez bien ça, je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. La prière, c'est savoir qui Dieu est. Prier, c'est savoir qui Dieu est. La conséquence, protection. Je ne prie pas pour être protégé, je prie pour connaître Dieu. En connaissant Dieu, je suis protégé. Je ne prie pas pour être béni, je prie pour connaître Dieu. En connaissant Dieu, je suis béni. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai, je serai à ses côtés dans la détresse. Parfois, la détresse va rester. Parfois, il y aura un moment de détresse. Eh bien, je serai à côté dans la détresse. Paul disait, dans la détresse, en prison. Paul a été lapidé. Paul a connu la maladie. Vous savez que Paul était accompagné de Luc, qui était un docteur, parce que lorsque Dieu n'agissait pas de façon miraculeuse, Dieu se servait de Luc pour le guérir. Alors, tous les chrétiens qui disent, t'as pas de foi. Oh, t'as pas de foi. Si, le gars a peut-être de la foi, et là, elle est en crise, il a une crise de foi, ça va aller. Les médecins viennent de Dieu. Même les dentistes viennent de Dieu. Je prie pour trouver un dentiste gentil parce que j'ai peur des dentistes. Quand le dentiste commence à me dire, vous inquiétez pas là, je suis inquiet. T'entends que... Tu fais qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, c'est une parenthèse. Cela dit, je prierai avant de partir chez le dentiste. Écoutez, il dit ici, je lui donnerai une vie longue et pleine. Attends, attaché au Seigneur, je lui donnerai une vie longue et pleine. Et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Ah bah ouais. Je suis son sauveur. Et je n'ai fait qu'un seul point. J'ai dû en faire deux. Moi, je m'arrête là, on fera le deuxième. Non, le deuxième est bien aussi. Hein. Bon, vous donnez 7 minutes ? Qui me donne 7 minutes ? Qui refuse ? C'est pas grave. Premièrement, tout le monde dit avec moi, Dieu me donne sa paix quand je me trouve dans sa présence. Juste ça, cette année, ça suffira. Mais il y a plus. Dieu me donne aussi sa puissance. Vous savez, quand j'étudie les hommes de Dieu depuis maintenant des mois, et 100%, je dis bien 100% des hommes ou des femmes de Dieu qui manifestent la puissance de Dieu sont des hommes et des femmes de prière. Je n'ai jamais vu un gars qui disait « Dieu s'est manifesté, Dieu est puissant dans ma vie, des signes, miracles, prodiges, l'église a grandi », qui me disait « Par contre, je prie jamais. » J'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai entendu des gars qui me disent « J'ai pas le moral, je suis déprimé, je suis nul, je suis naze. » « Ah ben, tu pries pas. » « Ouais, comment tu sais ?» Je t'écoute parler, Joseph. La puissance de Dieu change les circonstances. La puissance de Dieu change les relations. La puissance de Dieu change la vie. La puissance de Dieu me donne la sagesse pour régler les problèmes dans la famille. Vous savez, quand je travaille, je travaille. Mais quand je prie, Dieu travaille. Je vais redire ça. Quand tu travailles là, tu travailles, c'est bien, mais quand tu pries, Dieu travaille. Parfois, on a tellement nos mains sur la situation, on veut tellement montrer à Dieu combien on maîtrise, que Dieu ne peut même pas venir donner un coup de main, tu prends toute la place. Un jour, je me suis vu, vous savez, imaginez un grand couvercle de marmite, vous savez les marmites, un grand couvercle, j'étais sur le couvercle de la marmite. J'ai pris la poignée de la marmite comme ça, et je voulais soulever le couvercle de la marmite avec moi dessus. J'ai essayé ça, vous ? C'est comme ça, ça marche pas. Dieu dit, sors de là, poup, il ouvre la... Voilà, mange maintenant. On est dans le problème, on est sur le problème, on fait partie du problème, et on dit, c'est bon, j'ai une solution. Ah ouais ? Il est la solution. Quand tu pries, Dieu se met à l'œuvre. Vous lirez chez vous dans Actes 12, chez vous, Pierre est en prison. Moment très dur pour l'église. Pierre est en prison et la Bible dit dans le livre des Actes, il dit « Mais l'église priait avec instance pour la faveur pour Pierre. » Quelques heures plus tard, un ange débarque dans la prison. Pierre est entouré de 16 soldats. L'ange débarque, réveille Pierre qui dort. « Gars, t'es en prison, tu vas mourir le lendemain, tu dors. Tu prends du repos pour la mort ?» Non, il est en forme, lui. Il dort tranquillement. Il dit, c'est bon. L'ange le réveille. Il sort de la prison sans que personne ne le voie. Ses chaînes tombent. Il arrive devant l'église. Il frappe à la porte de l'église. Une fille ouvre, elle dit, ah, c'est un fantôme. Enfin, à son nez. L'église prie pour qu'il soit délivré. Et quand il est délivré, il croit que c'est un fantôme. L'église de Christ. Heureusement, je ne suis pas Dieu. Voici ma question que tu peux poser à ton voisin avant de... Sans inquiéter sur lui, écoutez bien ça. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu es prêt à lever les mains vers Dieu pour libérer sa puissance ? Et je vais vous lire une histoire très simple, très puissante, quelques versets, 5 versets, pour conclure ce message ce matin et vous encourager à quitter ce lieu en disant, c'est décidé, aujourd'hui, je prie. Et si vous êtes fidèles, dans les semaines qui vont venir, on va vous enseigner à prier. Exode 17, verset 8. Nous dit, les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, choisis des hommes capables de nous défendre. Choisis des hommes capables de nous défendre. Et demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué est parti combattre les Amalécites comme Moïse lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Hur se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand il le laissait retomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Hur prirent une pierre et placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Hur, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil, et Josué remporta une victoire complète sur les Amalécites. Une puissante, magnifique image de l'Église que Dieu veut élever en ce moment. Moïse ne suffira pas. Mais l'intercession de Moïse est capitale. Et malgré l'intercession, Dieu dit à Moïse, envoie tes meilleurs hommes, tes troupes d'élite, envoie les gars se battre. Dieu ne veut pas que tu dises, ah ben, Dieu va agir. Attends, agis aussi toi. Ah ben, Dieu, j'ai un problème d'argent, Dieu va agir. Agis, dépense moins. Alain, mon beau-père m'a dit un jour, Alain, ça va arriver, hein. J'ai dit, Alain, comment on fait pour être riche? Il me dit, dépense rien. Dépense rien? Non, tu dépenses rien. Tu payes ce que tu as à payer. 30% budget, 30%. Bref, tu mets de côté. Là. Ah bon? Ouais, si tu veux une télévision maintenant, t'attends. Si t'attends 3 ans, qu'elle ait perdu 100% de sa valeur. Ah ouais? L'urgence tue l'important. Et parfois, les gens sont capables de sacrifier ce qui est vraiment important pour ce qu'ils veulent tout de suite. Ils sont prêts à sacrifier ce qu'ils veulent vraiment pour ce qu'ils veulent maintenant. Triste. Et ici, Moïse se dit, bon, voilà ce qu'on va faire. On va envoyer des hommes d'élite contre l'armée ennemie. Mais moi, je vais aller prier sur la colline, m'assurer de la victoire. Et on a vu l'histoire. Tant que les bras sont levés au ciel, la victoire est assurée pour le peuple d'Israël. Et quand les bras se lèvent et cessent de prier, la victoire est en perte. On perd du terrain, on perd de l'atmosphère, c'est moins saturé, c'est moins plein, il y a moins de joie, il y a moins de paix, il y a moins de fonction, il y a moins de puissance parce que tu perds du terrain, parce que tu as cessé de prier. Pour maintenir la victoire, il faut maintenir une vie de prière. Pasteur Marc m'a appris plusieurs choses. Mais une des choses qu'il m'a apprises, c'est l'importance de la prière. Quand tu as envie, prie. Quand tu n'as pas envie, prie plus. La puissance libérée ce matin, je finirai avec ça, par la prière, se manifeste de différentes façons. Écoutez ça, la puissance, ce n'est pas juste quelqu'un qui sort d'une chaise roulante, c'est bon, ça, on veut voir ça. La puissance, c'est aussi, par exemple, la sagesse surnaturelle que Dieu te donne pour régler un problème. Ou tout d'un coup, tu as peur et tu crains et Dieu te remplit de courage. Le courage qui vient subitement, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Ou tout d'un coup, tu ne sais plus quoi faire et tu es rafraîchi par un regain de persévérance. Tu as envie de baisser les bras. Et tout d'un coup, tu ne sais plus quoi faire. Et là, tu pries et tu sens quelqu'un qui vient inonder ton âme. Le courage revient. Tu fais quoi? Tu me cherches là, viens. Juste avant, tu étais, ouais, je peux. Et juste après, je dis, allez, viens te battre. Ça, c'est la puissance de Dieu. Celui qui ne prie pas se prive de la paix et de la puissance. Et voici mon dernier passage puissant. Le psaume 29, verset 11. Le Seigneur donne la puissance à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Son peuple, intimité. Daniel, je crois que c'est chapitre 9 ou 3, je ne suis pas sûr du verset, peut-être que Joël pourra m'aider. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Daniel 9, quelque chose, je ne sais pas bien. Celui qui connaît son Dieu fera des exploits. Alors ce matin, j'aimerais demander à toute l'église extravagance et au nouveau. Aux visiteurs. En 2015, Dieu veut des vases qui soient vides, qui soient disponibles, qui soient purs, qui soient sincères. Des hommes et des femmes qui vont venir trouver le temps dans la semaine, et on va en parler vendredi soir si vous venez. Ne ratez pas cette série qui s'appelle Simplifier, c'est vraiment, vraiment une bonne série. Parce qu'elle va défier votre vie de tous les jours pour vous permettre de vivre ce genre de moment-là avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais vous inspirer, vous encourager à comprendre que si tu es très occupé ou trop occupé, alors tu dois prier. Parce qu'être trop occupé ne signifie pas être productif. Celui qui est trop occupé pour prier n'est pas productif. Celui qui s'intéresse à prier devient productif. Et quand je parle de productivité, je ne parle pas de projets qui réussissent, d'argent qui rentre en banque, plus d'argent. Non, 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 je vous parle de plus d'âme, des vies transformées, tes enfants restaurés, tes voisins touchés. Cette année, on va vous enseigner dans les semaines qui viennent les baromètres qui vont nous permettre de jauger si notre église locale est réellement selon le cœur de Dieu. L'une des choses qui nous permettra de voir si l'église locale Extravagance est une église selon le cœur de Dieu, c'est le nombre d'âmes sauvées par mois. Celui qui prie cherche les âmes perdues. Celui qui prie aime ce que Dieu aime et déteste ce que Dieu déteste. Celui qui prie se sépare de ce qui le sépare de Dieu. Celui qui prie, brille. Celui qui prie, brille. Ce matin, je vais faire un appel très très simple. Quelques secondes, s'il vous plaît, baissez la tête, quelques secondes, juste pour un symbole devant le trône de Dieu, juste pour que vous puissiez...